Voilà. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Frédéric Ferraud, qui va utiliser le micro parce qu'on l'entendra mieux pour
D'accord,
filmer.
Je vais essayer. Merci beaucoup et merci aux organisateurs. C'est vraiment une très bonne idée. Je suis vraiment très, très content que ce colloque ait lieu. Et je voulais aussi vous demander de me pardonner pour ne pas avoir pu assister hier aux journées. Donc, j'espère que je ne vais pas trop répéter ou enfoncer des portes ouvertes ou contredire encore plus des choses que vous auriez déjà établies hier. Ou discuter en tout cas hier. De formation, je suis enseignant de philosophie, et donc c'est à partir de cette perspective-là aussi que le jeu de rôle m'a toujours intéressé. Et donc je voulais parler aujourd'hui de la notion de personnalité et de personnage. Une des données de base de tout jeu de rôle, quel que soit le modèle, quelles que soient les préférences dans les quatre grands types de modèles, que ce soit pour raconter une histoire, pour résoudre des problèmes, le ludisme, ou simuler une représentation, on ajoute toujours, de toute façon, dans le terme même, dans la notion même de jeu de rôle, le fait de jouer, d'interpréter le personnage. On répète toujours, c'est un peu un des clichés dès qu'on discute entre rôlistes. Oui, mais est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu comprends ton rôle? On parle parfois d'incarnation, etc. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que veut dire jouer un personnage? Est-ce que ça a un sens? Et bien sûr, comme je suis en philosophie, je vais poser la question, mais je ne vais jamais répondre à la question. Tout ce que je veux faire, c'est essayer de montrer à quel point elle peut être ambiguë, en fait, et poser des problèmes, ne pas aller peut-être autant de soi qu'on pourrait le croire. Ça pose des présupposés poétique aussi, narratologique ou psychologique. Donc, quel que soit le choix ludique qu'on va faire, quelles que soient les préférences, il s'agit aussi de montrer que la notion même de personnage et de personnalité mérite de poser quelques questions. Donc, je vais le faire en à peu près deux temps. Dans une première partie, je voulais simplement faire un tableau historique, un rappel ou un survol, disons, de quelques évolutions sur les 40 ans, puisque c'est sur les 40 ans, de quelques mécanismes sur la notion de personnalité, et c'est de se demander s'il y a vraiment une évolution nette dont on pourrait dégager les grandes tendances. Et je vais dire que traditionnellement, on considère que oui, qu'il y a eu une évolution claire sur les mécanismes de personnalité. Dans une deuxième partie, en fait, je vais voir les critiques qu'on peut faire contre le récit habituel de cette évolution. Est-ce que ce récit est lui-même biaisé, a lui-même des présupposés? Et deuxièmement, est-ce que la notion même de personnalité, tout court, devrait être mise en cause et pourquoi? Donc, commençons par ce que vous devez tous connaître très bien, et j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer à vous répéter des choses que vous connaissez depuis trop longtemps. Sur l'histoire du jeu de rôle, donc, le récit habituel est de dire qu'on serait allé d'une origine du récit où le personnage n'est qu'un pion, où c'est directement l'extension du joueur lui-même, et finalement où la notion de personnalité comptait très peu, vers au contraire un accroissement, un approfondissement et donc un enrichissement de cela. Et en effet, si on reprend donc le grand ancêtre, si on prend les origines, disons, wargame du jeu de rôle, on voit bien sûr que la notion de personnalité apparaît très peu. Très peu. Finalement, le mécanisme originel qui jouerait à peu près ce rôle, ce serait soit l'alignement dans Donjons et Dragons. On peut se demander dans quelle mesure c'est vraiment un mécanisme de personnalité. On va juste peut-être évoquer ça, même si c'est un peu, là aussi, une tarte à la crème sur le jeu de rôle. Et d'autres notions qui seraient liées à cela au début. Donc, si on parle d'abord de l'alignement, bien sûr, la notion, quand elle apparaît dans des origines de wargame, elle n'a pas une notion si psychologique que ça. Elle se veut à la fois éthique, même cosmologique. Et finalement, son origine est purement, quasiment politique ou diplomatique. C'est l'idée qu'un camp ne peut pas s'allier avec un autre camp. Donc c'était simplement pour représenter ou pour imposer quelques contraintes sur des alliances possibles. Ah, je suis de tel alignement, donc je ne peux pas trop m'allier avec tel alignement. Ah, cette notion de relation entre les personnages, au départ, donc, n'est pas encore intériorisée. Ce n'est pas ce que le personnage se doit à lui-même, mais ce que le personnage n'a pas le droit de faire avec les autres. Et ensuite, par extension, ce sera avec des objets, Si je suis de tel alignement, je n'ai pas le droit d'avoir telle épée magique, ou je n'ai pas le droit d'utiliser tel sortilège, etc. Donc les mécanismes de base commençaient déjà à décrire les effets que cela pourrait avoir sur la personnalité, mais tout de suite on arrive finalement au problème de base d'un mécanisme de personnalité. Est-ce que c'est le mécanisme qui va imposer une contrainte au joueur? Ou bien, si le joueur a choisi cette personnalité, est-ce que, de toute façon, le comportement et les actes en jeu au cours du jeu déterminent, en fait, son vrai alignement ou sa vraie personnalité très rapidement? Donc, on a cette contradiction où on dit, si tu es de telle personnalité, tu dois agir ainsi. Et si, de fait, en fait, tu n'agis pas du tout ainsi, bon, ben, on change rétroactivement ce que tu es. Tu as changé d'alignement, tu as changé de personnalité. Et donc, cette notion d'évolution à travers le temps de la personnalité montre déjà, dès les origines, finalement, la question de sa stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire un mécanisme stable de personnalité? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on doit le faire ou pas? Ce que je vais juste évoquer rapidement, parce que je voudrais arriver à ma critique, c'est que la plupart des systèmes à l'origine, finalement, vont très peu choisir la contrainte totale et finalement, une des stratégies simples quand on veut représenter un tel mécanisme, c'est plutôt des punitions, des récompenses. Ah, si tu agis selon ton rôle, ta personnalité, alors tu auras tels avantages, ou bien au contraire, on te retirera tels avantages. Donc on joue sur l'incitation, sur la motivation, comme dit John Wick dans sa définition assez polémique du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est un type, c'est tout jeu où on essaye de récompenser un personnage pour le fait de jouer telle ou telle personnalité. Ça a donné naissance à des débats assez polémiques ensuite. Finalement, ce qui va faire la différence petit à petit, c'est l'idée de représentation dans le système de ce mécanisme. Au départ, c'est un terme, simplement, mais peu à peu, il y a un deuxième fait qui apparaît, c'est la quantification. Est-ce qu'on doit mettre une évaluation quantifiée de ce type de personnalité? En un sens, la notion de morale, non pas la morale, mais le moral, avoir un bon moral, le moral qui était une notion tactique, c'est déjà aussi une sorte d'ébauche de points de vie mentaux, en quelque sorte. On veut simuler le fait que le personnage perd sa volonté, puisse capituler, puisse perdre peu à peu le courage, etc. Et donc, dès les années 70, on voit des systèmes de quantification de type de personnalité. Un des premiers que je vois dans Chevalerie et Sorcery, il y a déjà un alignement qui est quantifié, ce qui fait que du coup, il est rendu uniforme, il est rendu continu, mais ça joue assez peu de rôle, sauf pour les prêtres. En gros, le système quantifié d'alignement dans Chevalerie et Sorcery, c'est si vous avez un alignement en gros de 1, vous êtes un saint, et si vous avez 20, vous êtes un démon, enfin démoniaque, vous avez perdu votre âme, et vous pouvez gagner des points d'alignement ou en perdre, mais en gros, ça va jouer seulement dans un contexte religieux. Et dès cette époque, justement, il y a un jeu de rôle moins connu qui s'appelle Isgarth, de Dave Nall, qui va introduire deux paramètres pour simuler le tableau à deux entrées de Donjons et Dragons, avec des points de karma et des points de dharma. Points de karma et points de dharma, ça veut tout simplement dire points d'alignement moral, le karma, bon ou mal. On peut passer dans le négatif quand on fait des actes mauvais, on passe dans le positif quand on fait des actes bons. Et le point de dharma, c'est le point de loyauté. Dharma, c'est la loi en sanskrit. Donc c'est au contraire l'axe loi-chaos, disons. Et c'est peut-être, alors je ne veux pas faire du tout d'hypothèse sur l'évolution des lignées ou la généalogie entre les jeux de rôle, je n'en sais rien du tout, mais c'est peut-être un des facteurs qui va ensuite jouer dans l'idée d'une quantification des mécanismes de personnalité. Et donc la date importante finalement dans l'histoire du jeu de rôle, ça va être sans doute Pendragon de Greg Stafford, puisque là, avec Pendragon, on a clairement un mécanisme où, au lieu d'avoir simplement un alignement simple, un jeu d'opposition très simple, on entre dans le détail d'opposition. Greg Stafford avait déjà utilisé ça pour des PNJ, vous trouvez ça dès Viv's World en 1981. Mais l'idée nouvelle, donc pour ceux qui connaissent Pendragon, vous savez, c'est trait de personnalité, vous avez une douzaine d'oppositions, vous avez une caractéristique par exemple chaste ou luxurieux, et plus vous gagnez en chaste, plus vous perdez en luxurieux, énergique, paresseux, clément, vindicatif, généreux, égoïste, etc. Et vous n'avez pas que ces traits de personnalité qui existent pour tous les personnages. Vous avez aussi des passions, en plus des intérêts, des passions que vous pouvez gagner, perdre, modifier au cours du jeu, haïr les Saxons puisqu'on joue des chevaliers de la table ronde, ou bien adorer sa famille. Là aussi, donc, la quantification va imposer un début de, non pas de punition ou récompense, mais un début de contrainte. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à la salle parce que je n'ai pas trouvé vraiment de règle où il y a des contraintes totales. Puisque dans Pendragon, vous faites un jet, imaginons que vous vouliez que votre personnage résiste, par exemple, à la paresse, vous faites un jet d'énergique, et si vous échouez, bon, là, vous êtes contraint d'être paresseux, d'agir conformément à votre paresse ou à votre indolence. Là, y a une comparaison célèbre qui avait été faite, célèbre, je ne sais pas si elle est célèbre, elle mérite de l'être, qui avait été faite par Denis Gerfaut. Dans sa recension à l'époque de Pendragon, il y a 30 ans, dans Casus Belli numéro 29, le premier Casus Belli, il dit que finalement, une des révolutions de Pendragon, c'est que ça transforme complètement la relation entre le personnage et le joueur, puisqu'auparavant, le joueur modelait son personnage, les PNJ étaient modelés par le MJ, et le personnage était librement modifié par le joueur, alors que là, le personnage n'est plus un avatar simplement du joueur. Le personnage résiste. Le personnage a sa propre cohérence, sa propre consistance. Comme la métaphore qu'utilise Gerfaut, c'est que le personnage devient une monture. On doit essayer de domestiquer son personnage, on doit apprendre à apprivoiser son personnage. Il n'est pas vous, il n'est pas votre gant, votre masque, il est quelque chose que vous essayez d'utiliser plus ou moins bien, ou de modifier, de transformer. Donc ça, c'est une des étapes importantes, et il y a de nombreux... Bon, il est déjà 50, alors je vais essayer de clore sur la partie plus historique. Finalement, par la suite... Il y a eu plusieurs propositions d'utiliser des mécanismes de personnalité. Une des références classiques, c'est tout simplement les théories du tempérament d'Hippocrate. On retrouve ça dans certains jeux de rôle, sanguin, mélancolique, bilieux, etc. Où ce qui devient justement intéressant, c'est que ça n'est pas toujours qu'une description d'un caractère, mais parfois la séparation claire entre caractéristiques qui agissent sur le monde et tempérament devient ambigu. Si vous êtes sanguin, peut-être qu'être sanguin, ça veut dire aussi que vous avez des traits physiques qui ne sont pas que psychologiques. Donc là, peu à peu, l'évolution peut-être plus récente des jeux de rôle, et encore plus dans les jeux où on ne tire pas son personnage complètement au hasard, mais où on le détermine, que ce soit par répartition de points ou que ce soit par un choix narratif, une description narrative du personnage. L'évolution va être justement de peut-être faire s'estomper cette différence claire entre les caractéristiques classiques et les mécanismes de personnalité. Un des types de jeux, des grands types de jeux des dernières années qui montrent bien cela, ce sont les jeux, sans même parler des jeux à la White Wolf, qui aussi insistaient sur le fait que vous deviez définir votre personnage, sa personnalité apparente, extérieure, le niveau public du personnage, et ensuite sa nature profonde, et jouer éventuellement sur ces différents niveaux privés, publics dans la personnalité. L'évolution actuelle des jeux qui utilisent ce qu'on appelle parfois des aspects, des aspects qui peuvent être donc beaucoup plus généraux que des caractéristiques habituelles, les jeux comme HeroQuest ou Fate, etc. Ce qui est nouveau, c'est que le trait de personnalité remplace une caractéristique, peut très bien remplacer une caractéristique. Vous pouvez très bien dire, si je veux aider mon ami, au lieu de me servir d'une compétence soin ou d'une caractéristique empathie, vous avez le trait de personnalité, fidèle en amitié, par exemple. Donc, pour résumer, 55, l'histoire naïve a l'air de montrer allez, on va le dire de manière peut-être très grossière, une sorte de progrès. Enfin, on peut considérer ça comme discutable, mais en gros, ce serait l'idée, il y aurait un approfondissement dans la représentation de la personnalité. Alors, comment cela peut-il être mis en cause ? On va le voir, je vais m'appuyer en fait sur un argument qui vient vraiment des débats à l'intérieur de ce qu'on a appelé la renaissance de la vieille école, la renaissance de la old school. C'est une défense paradoxale justement des systèmes plus, entre guillemets, archaïques. En effet, la notion même de caractère, de tempérament, elle est vraiment liée à tout un contexte qui vient de la philosophie, de la psychologie, et qui est très ancien. On sait que la théorie du tempérament, par exemple chez Aristote, elle n'est pas vraiment dans sa psychologie ou dans sa théorie de la nature, elle est plutôt dans sa rhétorique. C'est une théorie rhétorique. On classe les tempéraments. Pourquoi ? Parce qu'il faut classer les personnages. Si vous incarnez un personnage ou si vous essayez d'écrire avec la voix d'un personnage, vous devez vous imaginer ce qui est la consistance du personnage. Il y a une phrase célèbre dans l'art poétique d'Horace, qui dit « quand tu crées un personnage, tu dois penser à une chose, c'est sa consistance. » La consistance, parce que le personnage que tu n'as pas créé, il a déjà sa consistance, puisque tu le reprends à la tradition, mais si tu le crées toi, tu dois penser à son évolution, sinon le public ne pourra pas entrer dans le personnage. Donc là, c'est du point de vue de la réception, du point de vue du public, que nous-mêmes encore, quand nous voyons une fiction, nous avons ces réflexes-là. « Ah, je ne comprends pas son évolution à ce personnage. Quelle est l'évolution de son arc narratif ?» Comme on dit parfois, l'arc narratif. Est-ce que c'est trop abrupt ? D'où ça vient, cette évolution ? Et celui, justement, qui va s'appuyer sur cela, c'est un texte de Zach Smith, que certains parmi vous, vous devez connaître. Donc l'artiste et rôliste Zach Smith, il y a eu une interview il y a pas longtemps, je ne vois pas Jérôme Larré ici, sur Tarte aux Fraises, le blog de Jérôme Larré. Zach Smith, vers 2011, va s'appuyer sur un argument philosophique et poétique, tout simple, qui vient de Sartre. Jean-Paul Sartre, dans Les Situations, avait expliqué que la notion de personnalité, la notion de stabilité du caractère était une notion très discutable. Il appelle cela donc un présupposé aristotélicien. Il dit que les romans qui insistent sur à quel point c'est une richesse psychologique de garder une personnalité claire ne font que supposer qu'il y a une essence nécessaire du personnage qui jouerait sur le personnage. Et au contraire, est-ce que le roman et la complexité du roman ne devraient pas jouer, selon Sartre, sur le fait qu'un personnage n'est pas que sa personnalité, n'est pas que son passé, n'est pas que ses habitudes, et qu'il peut se redéfinir par ses actes. Le personnage serait en fait la somme de ses actes et non pas une essence, une nature, un tempérament qui aurait prédéterminé finalement ce qu'il peut être ou ce qu'il doit être. Et Zach Smith s'appuie là-dessus, et de manière peut-être un peu par goût de la contradiction, Smith dit en fait, c'était les jeux de rôle archaïques qui étaient les jeux de rôle existentialistes. Pourquoi existentialiste ? Parce que vous commencez avec un nom, vous commencez avec un personnage très vide, et en fait, vous le déterminez par vos choix, par vos actes. Et donc, sa personnalité n'est pas un choix artistique, je veux jouer ce personnage, cela va émerger à partir d'actes concrets, et on ne suppose plus une essence au-dessus du personnage. Donc, Smith va défendre l'idée que le jeu plus archaïque, plus considéré comme plus simpliste, finalement, réalisait mieux une sorte de confrontation avec un mystère de la liberté où le personnage part avec très peu de choses et doit se définir et prend conscience qu'il se définit. Donc ce serait un choix tout aussi légitime, pour Smith, pas supérieur, il ne faut pas exagérer non plus, mais tout aussi légitime que ce que nous avons pris l'habitude de prendre depuis finalement des influences poétiques et narratologiques ou psychologiques dans les jeux récents. Donc il associe cela avec d'autres dimensions d'ailleurs narratives. Pour lui, par exemple, il va faire l'éloge de ce qu'on appelle le roman picaresque. Le roman picaresque, le picaro dans les romans espagnols du XVIe siècle, c'est un personnage finalement qui a l'air assez vide et presque amoral, tous neutres, en quelque sorte. chaotique neutre. Et le Picaro ne montre pas de fidélité, de loyauté à ce qu'il est. Il va s'adapter à des situations. Et Smith dit, c'était ça l'expérience originale du jeu de rôle, et c'est pour ça que nous ne la comprenons plus, parce que nous la voyons dans une poétique différente. C'était avant tout une expérience du picaresque. Alors que nous voyons une évolution qui vient plutôt du roman psychologique, et qui est une évolution romantique, si on veut, et non plus une évolution, une idée existentialiste. Alors, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Je ne vais pas du tout essayer de prétendre que Smith aurait raison, que l'OSR, l'Old School Renaissance, aurait raison, quoi que ce soit. Ce sont des choix légitimes. Et en revanche, je voulais juste, pour conclure, comme dernier point sur la critique, évoquer un débat qui, lui, n'est pas en poétique ou en jeu de rôle lui-même, mais en psychologie. En psychologie, depuis 40 ans, justement, il y a un autre débat qui est sur la notion même de personnalité. Traditionnellement, ce qu'on appelle la psychologie ordinaire, c'est-à-dire le fait que nous tous, quand nous nous évaluons les uns les autres, nous ne pouvons pas nous empêcher d'attribuer une personnalité. Ah, il a l'air introverti. Ah, il a l'air irascible. Ah, mon collègue, il est tout le temps irascible. On ne peut pas s'empêcher de le faire, mais il y a certaines données psychologiques qui semblent montrer qu'en effet, il peut y avoir ce qu'on appelle une robustesse, une stabilité diachronique à travers le temps de disposition, de traits de personnalité, etc. Donc il y a un modèle célèbre, parce que tout à l'heure, je sais qu'on va parler avec des acronymes, donc il y a un modèle célèbre de théorie de la personnalité qui s'appelle la théorie Océan. Les Américains adorent faire des acronymes qui marchent bien. La théorie Océan, alors en gros, c'est les 5 grands types de traits qui sembleraient stables, après méta-analyse, comme on dit, à travers plusieurs types de théories psychologiques. Ouverture à l'expérience nouvelle, c'est le caractère consciencieux, scrupuleux, l'extraversion, le caractère agréable, alors après, c'est à préciser ce que ça veut dire, et N, le degré de névrose. Donc les cinq personnalités, ça voudrait dire que c'est ces 5 types de caractères, quelles que soient les théories, il y a des théories à 15, à 30 types de personnalités. Ce qu'on retrouverait de manière assez stable malgré toutes ces théories, la théorie la plus célèbre que vous connaissez, vous avez dû forcément recevoir ce type de test par Internet, est-ce que vous êtes INTP ou introverti ou extraverti, etc. Les 5 grands types semblaient montrer une certaine stabilité. Et en 1968, un grand psychologue américain, qui vit toujours, qui était le président de la société de psychologie, Walter Mischel, publie un livre qui, finalement, a complètement inversé le modèle, le paradigme classique des théories de la personnalité. Walter Mischel, c'est dans « Personality and Assessment ». Et ce que dit Mischel, c'est que contrairement à ce que nous croyons tous, et c'est très paradoxal, on a du mal à le croire, les personnalités sont certes stables, ont l'air très stables, on peut faire des prédictions et ça marche assez bien, mais elles sont stables parce que nous retrouvons les personnes dans des situations qui sont très analogues. Mischel va dire, il suffit que vous changiez un tout petit peu les situations, et ce qui vous paraît être une personnalité, ce qui vous paraît être une stabilité, une essence, etc., une nature, un tempérament, change complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est vrai, j'ai l'impression que mon collègue est irascible, mais c'est parce que je le vois toujours dans la situation de travail. La personne très irascible peut être au contraire très patiente dès que vous modifiez des facteurs très très légers de la personnalité, de la situation, pardon. Et donc ça voudrait dire que la notion de personnalité que nous considérons tous comme simple, que nous utilisons tous dans la vie quotidienne, serait une notion très problématique, puisque de toute façon, selon Mischel, elle serait disjonctive. Disjonctive, ça veut dire que vous ne pourriez pas dire il est irascible ou il est patient, mais il est irascible à chaque fois que vous êtes dans la situation P, il est patient à chaque fois que vous êtes dans la situation B, etc., etc. Et donc, ça ruinerait en fait tout caractère scientifique de la notion de personnalité, puisqu'il suffirait de modifications, même parfois très légères, de la situation pour que la personnalité soit totalement altérée. Il y a une expérience célèbre de Michel où il prend des sujets qui, par exemple, certains s'évaluent comme généreux et d'autres égoïstes. Il les fait passer un test pour voir leur degré d'altruisme et il introduit des très légères modifications dans la situation. Par exemple, dans un cas, il les observe sans aucune modification des stimuli. Et dans un autre cas, il met une odeur. Vous avez tous senti parfois dans les boulangeries l'odeur de croissant chaud. Il met cette odeur, je ne sais pas si elle est artificielle ou pas, de croissant chaud, et il obtient une différence de réaction totale. La personne qui croit être très généreuse, qui croit être très égoïste, se met à être très altruiste. Et il montre que la différence est en fait beaucoup plus significative par rapport à une donnée aussi superficielle que l'odeur du croissant chaud, que ça joue beaucoup plus que ce que la personne croit être son tempérament, que statistiquement, il obtient beaucoup plus d'effets sur des données aussi variables. Et donc, dans ce cas-là, ça aurait des conséquences aussi importantes d'un point de vue moral. Ça voudrait dire que la notion même de disposition, de vertu stable pourrait être critiquée. Et donc, pour conclure, en ce cas, la notion même du personnage qui... Si on l'identifie à une personnalité, à des dispositions ainsi sur lesquelles on peut faire des prédictions, personnalité prédéfinie, ce serait alors un peu une convention, simplement. Une convention très commode et on va continuer, bien sûr, à l'utiliser puisque ça permet de définir facilement notre personnage, de glisser dedans. Mais ça veut simplement dire que ça ne va pas de soi. Bien sûr que si je veux jouer mon... centaure, je vais le jouer irascible parce que c'est une convention dramatique que le centaure doit être irascible ou alcoolique. Mais bien sûr, si je veux, autre cliché, subvertir le trope, comme on dit, et jouer mon satyre chaste et puritain, bien sûr que j'ai besoin d'avoir ces stéréotypes. C'est très commode de définir son rôle ainsi, mais ce n'est pas, en tout cas, ça ne renvoie pas à une notion si clair d'une personnalité autonome qui, de toute façon, devait exister. Donc, les grands modèles dans Pendragon des traits de personnalité sont là aussi des outils qui peuvent avoir des effets amusants, intéressants, mais qui ne renvoient peut-être pas de manière si claire à une essence qu'on aurait besoin de simuler, à une réalité dont le jeu de rôle se serait rapproché dans un progrès, etc. Donc, au-delà même de la simple différence entre le comportement extérieur, la nature profonde, on pourrait se demander si, finalement, il y a une autre disjonction à faire qui n'est pas privée-publique, mais que la possibilité même d'évolution du personnage reste très ouverte. Voilà.
On va passer aux questions. Alors, y a-t-il des questions ?
C'est pas vraiment une question, mais je trouve que c'était hyper intéressant et en plus je pense que
oui.
Tu as mis le doigt sur quelque chose dont on va pas trop discuter, mais qui pourrait faire l'objet de l'anthropologue, c'est tous les impensés qui rendent heureux. L'impensé sur le personnage, sur la société, la façon dont elle fonctionne, l'idéologie qu'il y a derrière, etc. Et je pense que c'est une très très belle piste, les impensés du jeu de rôle, parce que on part avec des présupposés en plus qui sont transmis de rôle en rôle, de jeu en jeu. Et mettre le doigt sur ces impensés, je pense que c'est très intéressant.
Oui, je suis d'accord. Oui. Je pense que je crois que d'ailleurs vous en aviez un tout petit peu parlé aussi hier en parlant de la définition dans les relations, l'accroissement des relations sociales dans des jeux, par exemple à l'HeroQuest. Je crois qu'Aurélie David en a parlé, non, m'avait-on dit un petit peu. Et un exemple typique sur le jeu de rôle, Walter Michel a écrit un article contre la notion de volonté. Il dit la notion de volonté, ça n'existe pas. Et on utilise tous la notion de volonté, dira cette personne, elle manque de détermination, elle manque de volonté, etc. Parce qu'on fait des prévisions sur les gens qui font de la procrastination ou qui sont incapables de résister à certains stimuli. Ces prédictions marchent très bien. Mais, dit Michel, il y a des gens qui ont une volonté énorme dans certaines situations et qui en manquent totalement sur d'autres. Et donc la notion de volonté qu'on croit si claire est en fait un artefact dont on ne va pas cesser de se passer. On va continuer à dire ce politique n'est pas très volontaire. Il manque de volonté, il manque de courage. La notion de courage aussi, voilà. La notion de courage est une ambiguïté parce qu'à travers les situations, une personne extrêmement lâche, enfin, sens ordinaire du nom, si ça a un sens, peut très bien montrer des facultés de détermination. Et donc ça veut dire que, bien sûr qu'on on a peut-être besoin, qu'on voit mal comment s'en passer, mais ça vaut la peine de peut-être douter un tout petit peu de la pertinence parfois de ces notions si centrales dans les caractéristiques.
Dans l'existentialisme, il y avait une façon de laisser à l'aventure, c'est-à-dire d'aller à la recherche de soi-même en tentant des trucs théoriques dangereux ou exceptionnels, liés à l'idéologie d'un problème. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion-là par rapport au jeu de rôle, qui est fondamentalement un jeu d'aventure?
Alors, il y a plusieurs façons aussi de concevoir le rapport de l'existentialisme au jeu de rôle, parce que alors là, ce que dit Zach Smith, par exemple, quand il se sert, d'ailleurs avec des petits accents francophobes en passant, en disant oui, ne croyez pas que c'est qu'un truc de français, que c'est que pour fumer des gauloises, dit-il, c'est comme ça que s'appelle l'article de 2011, il dit, finalement, une des dimensions de l'existentialisme, c'est que l'authenticité d'un personnage, c'est pas sa fidélité à soi-même, c'est sa définition de soi-même. Et donc dans l'aventure, et là-dessus, je sais pas jusqu'où il a lu des textes de Stafford, etc. Mais par exemple, il ironise beaucoup sur les modèles jungiens. Stafford, à partir de Campbell, a popularisé énormément de théories jungiennes sur le fait que finalement, on va se confronter avec des grands archétypes, on va retrouver le monomythe, le parcours du héros, etc. Et Zach Smith dit, mais moi, j'ai pas tellement envie d'aller affronter le dragon comme mon ça, ou je sais pas, ou mon père, ou tuer mon père en allant tuer le dragon. J'ai pas envie de revivre exactement un rituel, de ritualiser le jeu de rôle comme auto-analyse obscurcie. J'ai envie de définir quelque chose de plus, beaucoup plus multiple. Et d'être surpris en fait par ce qui m'arrive et qui ne correspond pas du tout au monomythe. Si possible, si je réussis à ne pas retomber dans le monomythe, en fait, ce serait plutôt un avantage. Et donc cette notion d'aventure, hein, c'est pas simplement l'aventure au sens la confrontation, l'exploration de la nouveauté extérieure, la surprise, l'exploration du monde, le bac à sable comme exploration de l'inconnu, c'est aussi la surprise même de ne pas savoir peut-être ce qu'on est dans l'autodéfinition.
Merci.